D. Aider un timide. Peut-être souhaitez-vous améliorer l'image de certains de vos proches, enfants, conjoints, amis, connaissances, mais aussi collègues, etc. Ou des personnes dont vous avez la responsabilité, patients, élèves, collaborateurs, etc. 1. Quelques questions. Soit, mais avant d'aider quelqu'un, avant de vous jeter dans la gueule du loup, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi voulez-vous aider cette personne? Est-ce vraiment pour elle ou n'est-ce pas aussi et surtout pour vous? Par exemple, pour prouver que vous êtes quelqu'un de bon et généreux. Êtes-vous responsable de cette personne? Si oui, dans quelle mesure et jusqu'où? Cette personne vous a-t-elle demandé explicitement de l'aide? Sinon, pourquoi croyez-vous qu'elle en a besoin? Et pourquoi vous croyez-vous autorisé à intervenir? Cette personne est-elle vraiment incapable de réussir sans votre aide, par elle-même? Comment le savez-vous? Votre aide ne risque-t-elle pas de l'inférioriser, de la rendre encore plus dépendante de vous, sur le long terme? Est-ce vraiment ce que vous recherchez? Êtes-vous codépendant? Avez-vous besoin que l'on ait besoin de vous? Une forme de parasitisme? Pourquoi voulez-vous supprimer toute forme de souffrance, peine, douleur, frustration, déception, inhérente à la vie, amoureuse, professionnelle et autres? Pourquoi voulez-vous faire les choses à sa place? Pourquoi voulez-vous l'empêcher de vivre une expérience, de progresser et d'apprendre? Voici quelques citations susceptibles de vous prévenir contre la tentation maternante d'aider. Être bon pour son semblable, c'est le traiter comme un chien. Alain. Aider son prochain, c'est le traiter comme un chien. N'aide pas les autres, aide-les à céder. Nietzsche. Aide-toi, le ciel t'aidera. Proverbe. Aide-toi, tout le monde t'aidera. Nietzsche. 2. Le triangle dramatique de l'analyse transactionnelle. Les jeux psychologiques. D'après l'analyse transactionnelle, ce sont des jeux de rôle inconscients et des scénarios répétitifs négatifs. Ce sont des transactions doubles qui tournent en rond parce que l'enjeu est au niveau de la transaction cachée sous le couvert d'une autre officielle. Exemple, l'enfant puni par son père est toujours sauvé par sa mère. Eric Berne a recensé différents jeux psychologiques. Battez-vous, sans toi, oui mais, la jambe de bois, au viol, etc. Steven Karpman, un élève d'Eric Berne, a extrait le scénario sous-jacent à tous ces jeux qui comportent toujours trois rôles, victime, bourreau et sauveur. Le drame, c'est l'issue toujours négative, l'échec prévisible, le clash inévitable. Exemple. Phase 1. A, la victime, se plaint à B, qui devient sauveur, d'une personne C, qui devient bourreau. Phase 2. B prodigue ses conseils à A, qui les rejette systématiquement, oui mais, et accuse B, bourreau, qui devient victime, de ne pas l'aider. Phase 3. B se rebiffe, bourreau, et rejette la faute sur C, victime. Elle lui propose de se débrouiller, sauveur, tout seul. Conclusion. Réfléchissez à deux fois avant de proposer aide et conseil. Et surtout, avant de vous mêler d'un conflit qui ne vous regarde peut-être pas. Parfois, la meilleure façon de gérer un conflit, c'est encore de ne pas y prendre part. Ne jouez plus jamais au sauveur. 3. Comment aider ses proches? Il existe une série de situations où l'aide est non seulement souhaitable, mais également nécessaire. En situation de survie. Exemple, le Titanic ou lors d'un accident de voiture. Un individu ou un groupe peut avoir des réactions totalement négatives ou dangereuses, crise de panique, passage à l'acte violent, dépression ou prostration, etc. En situation d'urgence, si quelqu'un n'arrive pas à respecter un délai à l'école, au travail ou lors d'un rendez-vous, lorsque vous n'avez pas le temps ou les moyens d'apprendre, enseigner, à pêcher. Enfin, lorsque les personnes sont trop faibles ou trop fragiles pour apprendre, bébés, petits-enfants, handicapés mentaux et ou moteurs, malades, personnes âgées, etc. Il existe deux grandes façons d'aider quelqu'un. Lui donner satisfaction, résoudre son problème, ou l'aider à le résoudre par lui-même. Si quelqu'un a faim, donne-lui un poisson, il vivra une journée. Apprends-lui à pêcher, il vivra toute sa vie. Proverbe chinois. La première façon est la façon maternelle ou maternante, car elle s'applique naturellement entre une mère et son bébé ou son enfant, caractérisée par sa dépendance quasi totale. Mais le bébé grandit et devient enfant puis adolescent. Il faudrait donc la pratiquer de moins en moins au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Car cette façon d'aider est dangereuse à long terme. Elle entretient la dépendance initiale et empêche l'enfant de grandir. Mais rien n'est plus difficile à appliquer pour une mère, sauf exception, car cela tend à la rendre inutile. Et rien n'est plus gratifiant pour une mère, mais cela est vrai dans beaucoup d'autres relations, notamment la relation amoureuse, que de sentir que l'autre a besoin d'elle. D'après Mélodie Betty, vaincre la codépendance, il semblerait même que ce soit un besoin, le besoin que l'on ait besoin de moi. En réalité, il ne s'agit pas d'un vrai besoin, puisque les besoins sont des déséquilibres internes. Mais c'est une synthèse de deux autres vrais besoins, le besoin de sens, se sentir utile, et le besoin de communication, besoin d'aimer et d'être aimé. 4. Le conseil, la thérapie et le coaching. Contrairement aux idées reçues, un coach ou un psychothérapeute authentique ne donne jamais de conseils. Sinon, c'est un conseiller ou un consultant. C'est un tout autre métier qui repose sur une analyse d'un problème technique. Conseiller ou préconiser, la même chose, en plus cher, revient à donner un poisson, une solution ponctuelle. La thérapie et le coaching sont basés sur l'approche centrée sur la personne initiée par Carl Rogers. Il consiste à aider le client à s'aider lui-même, à lui permettre de trouver en lui-même et par lui-même la solution à son problème. C'est évidemment infiniment plus long, plus difficile et plus complexe que de donner un conseil. Comment arrive-t-on à ce résultat? Quels sont les moyens et les outils de ces accompagnants? C'est d'abord et avant tout l'écoute, qui s'appuie elle-même sur le silence, laisser parler le client sans l'interrompre, sur la reformulation pour lui permettre de s'entendre et sur le questionnement, le cœur du métier. Sans aller jusqu'à vous substituer à ses accompagnants, vous pouvez vous inspirer de leur méthode en pratiquant ces quatre techniques. Écouter ou laisser parler l'autre sans répondre. Observer sa communication non verbale, puisque le corps ne ment jamais. Reformuler ses propos, mais aussi ses non-dits. Et enfin, questionner sur trois points essentiels. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles émotions ou quels sentiments? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins et tes désirs? Et que vas-tu faire pour l'obtenir? Quelle décision ou quelle action? Ces questions responsabilisent l'autre et le libèrent de son propre enfermement. Ces techniques, savoir-faire, sont très efficaces avec un peu d'entraînement. Mais l'essentiel est ailleurs, dans votre attitude, savoir-être. Carl Rogers a en effet montré que c'est elle qui fait avancer une thérapie. Il en a tiré trois conditions nécessaires et suffisantes. L'empathie, l'acceptation inconditionnelle de la personne aidée et la congruence, c'est-à-dire l'authenticité avec soi et avec l'autre. Là réside toute la difficulté du métier.